Le dimanche 16 mars dernier, avec Jaxi, on a installé le studio mobile dans la fête du printemps du café associatif Le Phare, à Alex. Accueilli par Amandine et Yvan, et toute la joyeuse équipe du Phare, on a interviewé beaucoup de monde et traîné nos mics sur la placette.
Blind test, frites, chorale, buvette, course à l'escargot, bal folk. Et on a aussi découvert l'histoire de la création du Phare et de ce qui s'y passe.
Alors on vous propose d'entendre quelques bribes de cette joyeuse journée. Petite embardée sonore dans un village perché de la vallée. Un village qui s'attelle fermement à déconstruire les barrières entre nos mondes.
On a plusieurs temps forts cet après-midi avec une chorale de cinq copines, cinq du village qui ont monté une petite chorale il y a un an et demi, donc qui vient chanter. On a une deuxième chorale qui s'appelle Terpsichore. Qui vient chanter à 14h.
Qui est la chorale de l'école de musique Gran Alex, voilà. L'école des Ramières.
Et on va dire en star, à 15h, on a les Tralala Lovers, qui va nous faire un bal folk sur la place de l'église à Alex.
Donc on pourra guincher, donc. Mmh. C'est prévu.
Et aussi un blind test.
Et une course d'escargot.
Tout à fait.
Un blind test de l'amour.
Non, il y a beaucoup trop de choses.
C'est le thème de la journée, l'amour. Hein.
Ah oui, c'est ça, on l'a pas dit, c'est vrai.
Que du love. Les enfants aussi qui sont invités, aussi des adultes, à fabriquer des objets, des totems qui défileront après et sont présentés pendant la fête.
Un atelier artistique, donc voilà. Pratique artistique, ouais. Sur la placette. Ouais. Et puis des crêpes et des frites, non, quand même.
Des saucisses, de la bière, blonde,
voilà, tout le monde.
Du vin chaud, du vin chaud, plein de choses.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas.
Ah, mais il coupe toujours là!
30 secondes, c'est 30 secondes!
On se rencontre dans la cité, un pote à moi nous a présenté. Je l'avais croisé près de la forêt, et quand je l'ai vu dans la soirée.
C'était donc le blind test de la fête du Phare sur cette magnifique petite place au-dessus du café associatif d'Alex.
Avec mon camarade DJ Tepaz et moi, MC Phonographe, on organise les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois des soirées vinyles. Ça s'appelle platinage artistique. Voilà. On passe des vinyles, on échange, on discute autour des vinyles. Alors on fait des thèmes, mais des thèmes qu'on respecte pas très souvent. Mais voilà, en fonction des dates, en fonction des périodes de l'année. Voilà, c'est le printemps, on va faire un truc spécial printemps. Mais l'idée c'est ça, c'est pas seulement nous qui amenons des disques, mais que les gens viennent et apportent leurs disques. Mais s'ils en ont pas, eh ben ils peuvent venir juste pour le plaisir des oreilles. Des fois, on est nombreux, alors du coup, ça discute pas mal. C'est pas une écoute religieuse, tout le monde se tait, une analyse pointue des choses, mais voilà, c'est l'idée aussi d'avoir une assez grande diversité de choses, parce que finalement, en choisissant les vinyles, tu choisis d'avoir des choses qui sont plutôt un peu anciennes. Alors, même s'il y a un renouveau du vinyle maintenant et que les groupes, les artistes sortent leurs nouveautés en vinyle de plus en plus. Hein, y a un retour du vinyle, mais bon, nos collections, elles sont quand même faites de pas mal de choses qui datent des années 90 et avant. De temps en temps, on a un peu de classique, c'est assez rare, mais ça arrive aussi, de la chanson française, oui, du rap, du hip-hop, du rock, des choses très variétés, puis d'autres plus pointues, plus moins courantes, je dirais.
Okay.
Voilà. Et puis deux, trois fois par an, le platinage artistique organise une boom ou un bal masqué, voilà, avec un thème en fonction du moment.
Et donc les
deuxième et quatrième mercredi du mois.
Venez avec vos vinyles.
Voilà.
Merci Emmanuel.
Et je t'en prie.
Il y a les keufs dans la porte assise.
Moi je suis chaud dans le viseur.
Il y a les keufs dans la porte assise.
Dans le viseur.
Moi personnellement je préfère
Joe.
Viens,
on y va maintenant.
Il y a 8 ans, au moment du démantèlement de la jungle de Calais, l'État avait décidé d'installer un CAO, un centre d'accueil et d'orientation pour les migrants, à Alex. La municipalité de l'époque était contre ce projet, a voulu organiser un référendum auprès de la population. Enfin, il y a eu des événements, comme on dit en France, quand ça ne se passe pas bien, au sein du village, avec une grosse friction entre les gens qui étaient pour l'accueil des migrants et les gens qui étaient contre l'accueil des migrants. Donc ça a créé une très grosse tension dans le village pendant plusieurs semaines. Nous, habitants du village, on a été choqués par ça et on s'est regroupés, on a remis notre énergie en commun en se disant c'est pas possible. Le village, c'est pas ça. Le village Alex, c'est pas ça. Et ça peut pas être l'image qu'il doit renvoyer. Donc on a réfléchi, on s'est regroupé, on a travaillé et on a décidé de monter une association pour créer du lien entre les habitants avec plusieurs projets à l'époque. Et le projet majeur, ça a été d'ouvrir un café associatif puisqu'il y avait ce local qui était disponible. Donc on a œuvré, on a fait 3-4 mois de travaux pour le rendre accueillant et on a ouvert le 18 mars 2018.
Depuis le début, il y a deux permanences par semaine, c'est-à-dire deux soirs d'ouverture le mardi et le vendredi. Et très vite, d'autres envies ont émergé, qui étaient effectivement, comme vous l'avez rappelé, des envies d'animation culturelle, de création de liens, plein de projets très divers, hein, parce que une des caractéristiques du fonctionnement de l'association André Andra, qui est donc l'association qui porte ce projet, c'est que n'importe quelle initiative qui ne rencontrerait pas d'opposition parmi les membres du collectif peut se faire. Et donc, ce collectif qui vit, qui grandit, qui évolue chaque année, il y a chaque année des nouveaux projets, chaque année des nouvelles propositions, et à chaque fois, donc, des propositions qui sont dans cette fameuse bouteille et dans nos activités de toute l'année.
Oui, alors je fais partie d'une commission sur l'art pour tous les mois inviter un artiste à exposer. Donc on cherche plutôt des artistes locaux à dominante, mais c'est assez ouvert. On a eu des gens très différents avec des expositions très différentes, que ce soit de la photo, de la peinture, oui, vraiment une grande variété. On est de plus en plus sollicité par des artistes qui ont envie de venir et de se montrer leur travail.
Hey, Molly. Hey, Yamo, hemo, hey, yamo. Un jour, nena, kokvaro, gyuri, haragi.
m'appelle Gabrielle. Lacoste, Klein. Le K, c'est le nom d'artiste, autant photographe, DJ dans la Drôme. Je pense que j'ai pas mal passé dans le coin, donc il y a quelques personnes qui me connaissent aujourd'hui. J'aime bien la photographie sociale, rendre visible, invisible. C'est un peu mon projet photographique. Et quand j'ai fait ces photos, j'avais pas imaginé créer une série documentaire sur l'exil. La photo là en question, on est au 3 ou 4e étage. Ils ont posé des briques les unes sur les autres. On est au bord d'un précipice. Si tu pousses les briques, les murs ne tiennent pas. Et tu vois un mec là qui est en train de regarder un peu. Je dirais pas qu'il est désespéré, mais en tout cas, il regarde ce qui se passe devant. La maman est en train de laver l'enfant dans une bassine. Ouais, je sais pas, c'est assez incroyable. En fait, cette photo, elle me parle beaucoup. En fait, il y a un halo de lumière qui arrive aussi, qui éclaire le mec qui regarde devant. Et on ne sait pas ce qu'il pense trop, mais en tout cas, c'est assez paisible. Et c'est une scène familiale assez courante, en fait, d'une maman qui lave son enfant et d'un papa qui est là. Et en fait, il y a énormément de danger autour de tout ça et beaucoup d'incertitudes. Donc, au moment où je la rencontre en 2014, on est vraiment sur le début de l'exil des populations yazidis. Elles partent du Sinjar, elles viennent de traverser un endroit un peu désertique. Tout le monde part en famille, sans voiture, tout le monde part à pied, grosso modo, et se retrouvent au Kurdistan irakien, où il y a déjà aussi énormément de réfugiés syriens qui sont déjà accueillis. Donc moi, là-bas, je bossais sur un camp de réfugiés à Domiz, un camp de réfugiés de 60 000 personnes. Et d'un coup, on a la population yazidi qui fuit le Sinjar et qui arrive dans le milieu urbain, enfin des bâtiments en construction. Donc c'est à peu près là où je fais les photos, où il n'y a pas vraiment de quoi les accueillir au final, en fait.
Et du coup, on a un vernissage tous les troisième vendredi du mois, où les artistes sont présents et ça crée des moments toujours très, très intéressants. Parce que forcément, bah, dans une petite commune comme Alex, l'accès à l'art, il n'est pas forcément évident tout le temps. Et je trouve que cette initiative, elle est extrêmement appréciée dans le collectif.
Merci, mais c'est coloré, magnifique. Un téléphone vient d'être rapporté là devant la scène. Mathieu, un peu plus de main gauche pour moi, s'il te plaît. Bien, on va faire un grand cercle. C'est un cercle circassien. Ça peut être un cercle, mais si vous êtes nombreux, on en fera peut-être deux. Et alors, on vous invite vraiment à venir. Vous venez par deux. Et on va passer la parole à Solène, qui est dans le public avec un micro. Solène, la godasse folk, qui a la gentillesse de nous animer quelques danses cet après-midi. C'est son métier, donc vous êtes entre de bonnes mains. Venez à deux, elle vous donne les explications.
Alors, ça se danse à deux en cercle. Donc, vous trouvez quelqu'un, quelqu'une, peu importe, et on va être par deux, et on va tenir la main de tous les autres groupes. Dans votre couple, il y a quelqu'un qui est à gauche, et il y a quelqu'un qui est à droite. Bon, comment on va faire? On peut faire un petit cercle au milieu pour commencer, si vous voulez. Donc là, moi, je suis à droite.
Elle sait qu'on va
à gauche. Voilà, mettez les mains par deux en cercle. On va le faire une fois à blanc. C'est bon? Donc, on va commencer par aller vers le milieu, on fait 4 pas. 1, 2, 3, 4, on revient. 1, 2, 3.
Nous, on propose un bal folk pour danser. Et donc le love, il vient automatiquement, normalement.
Voilà, on en diffuse et en général, c'est bien reçu et partagé.
Puis dans un cadre comme aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert, familial. Il y aura des débutants, il y aura ce qui compte, c'est d'essayer d'impulser une énergie et que les gens ils ont envie de venir s'amuser avec nous. Si c'est un peu olé olé chorégraphiquement parlant, c'est pas grave.
Et là, on se retourne vers la personne avec qui on était venu et on va danser avec elle. On se met en position,
ça sera mieux.
Donc les personnes qui étaient à droite vont mettre leur main derrière. les doigts de la main dessus. Et là, on va tourner un petit peu. C'est la musique qui vous dit. 2, 3, 4, 5.
Par exemple, il y a un branle de Noirmoutier.
Un cercle circassien.
Oui, il y a un rond de Saint-Vincent.
Une chapeloise.
Oui, mais il y a des danses plus connues comme des valses. Tout simplement.
Des scottiches.
Des scottiches. Ouais.
Et des danses libres aussi pour ceux qui savent
pas danser. Et il y a quelques danses libres.
Voilà, qui veulent nous rejoindre en toute liberté, c'est possible.
C'est-à-dire que les personnes qui étaient à la base à droite se retrouvent à gauche au centre du cercle. On va reformer le cercle. Et là, d'un coup, eh ben, j'ai une nouvelle personne à ma gauche. Les personnes de gauche. Les personnes de droite. Et on suit.
Avec moi, je crois.
Oh, ils font comme ça. Et la balade. Et on reforme le cercle. Et on est reparti là. Et je vous laisse avec le paralarme.
Ouais, il y a toujours un danseur ou une danseuse au coin de la rue, prêt à dégainer.
Et on est donc toujours dans cette fête du phare au printemps, avec cette fois-ci Aude et Olivier qui nous parlent du phare ambulant. Mais c'est quoi donc ?
Eh bien bonjour, le phare ambulant c'est un projet qui est né il y a 2 ans à peu près autour de la question de l'intergénérationnel et la question de vouloir déplacer le phare dans les quartiers du village d'Alex. Donc le phare c'est le café associatif qui est dans le village et on a déjà fait plusieurs fêtes de quartier. Déplacer le phare dans les quartiers pour que les habitants se rencontrent et pour que les habitants du village rencontrent également les différents quartiers, se baladent dans les quartiers.
Et du coup, on l'a fait en association avec Mémoire d'Alex. Et donc, à chaque fois, par rapport à un quartier, ils proposent une balade. Et nous, autour le phare, on propose effectivement d'autres événements qu'on essaye aussi de monter et d'impliquer des habitants de chaque quartier.
Autour de ces fêtes de quartier, on fait des animations et on monte des projets aussi en amont de ces fêtes de quartier pour pouvoir faire des restitutions.
Les ateliers vidéo, du coup, ça va être le deuxième là, qu'on va faire en avril, pendant les vacances de Pâques, sur la deuxième semaine, qui est ouvert pour des jeunes de 14-18 ans. L'idée, c'est la réalisation d'un film de fiction à partir d'un lieu et d'une rencontre avec l'histoire de ces lieux. Donc là, par exemple, le lavoir, puisque les lavoirs, à une époque sur Alex, c'était un petit peu, on dit, la radio locale, c'est-à-dire c'est là où circulaient un peu toutes les informations. Donc voilà, par exemple, on va partir de ces lavoirs, et les jeunes vont faire un film autour de la communication aujourd'hui, tout en prenant en considération ce qu'elle était avant. Et puis, il y a un autre atelier qui est mené
par Blandine et Laurent sur le conte.
On est toutes les deux conteuses. Mmh. Et dans le cadre de la commission Phare Ambulant, on propose des goûters contes et récits intergénérationnels.
Tous les deuxièmes mercredis du mois.
Okay.
Et on réunit des personnes qui ont entre 6 mois et peut-être 80 ou plus. Et qui viennent écouter des histoires, les histoires que nous avons dans nos répertoires. Et puis, ça peut être aussi la parole qui circule après entre les participants, participantes, sur des anecdotes de vie, selon le thème qu'on propose. Récemment, on a proposé le thème des grands-parents. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué avec vos grands-parents ? Mais ça peut être...
c'est très ouvert. Les souvenirs de nourriture, les souvenirs d'histoire dans le village, voilà.
On en fait deux par an, ces fêtes de quartier.
La prochaine est le 25 mai.
Dans le quartier des Champignons.
En bas d'Alex, à côté de la pizzeria, et on appelle ça le quartier des Champignons parce que toutes les rues ont des noms de champignons.
Et ben, sur la première qu'on a faite, qui était au quartier de Lille, dans le château de Lille, on a eu 70 personnes qui sont passées sur la journée. Et la dernière là, qu'on a faite en mai l'année dernière.
Oui, en mai.
Qui était sur le quartier de Lille, donc sur le lotissement qui est vraiment sur le plateau en haut d'Alex. On a eu plus de 150 personnes sur la journée.
Donc, et puis il y a des personnes du quartier qui au début nous regardaient de derrière, et puis ils sont petit à petit ont traversé, sont venus, et puis d'autres qui sont dès le départ sur plusieurs réunions avant. Il y a pas tant que ça impliqué sur les réunions au départ, mais il y en avait quelques-uns qui sont venus sur réunion et qui ont suivi un peu tout le processus avec nous.
Et d'autres habitants d'autres quartiers d'Alex sont venus aussi pour voir ce qui s'y passait. Et voilà, ça donne des élans pour les futures fêtes de quartier.
Joyeux. Donc ça, c'est chouette. Des enfants, des hommes, des femmes, des très jeunes, des très âgés. Et qui suivent bien le rythme de la musique.
On est, je dirais, une petite quarantaine de bénévoles qui sont très actifs dans, je dirais, la gestion et du lieu et des activités tout au long de l'année, avec depuis un an des réunions tous les deux mois de ce qu'on appelle le grand groupe, où le grand groupe discute de tout un tas de sujets, prend des décisions qui sont prises donc sur la base du consensus.
Non, du consentement. C'est-à-dire que si quelqu'un est contre, il émet une opposition, il verbalise une opposition. Et on essaye avec lui d'adapter le projet pour qu'il n'y ait plus d'opposition.
C'est ça.
On l'écoute. En fait, on écoute les gens qui sont contre. Souvent, on les entend pas. Et là, on les entend bien. C'est bien. C'est important.
Et on fonctionne de manière plus souple par un mail commun qui s'appelle le lieu commun. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce nom qui a été choisi à l'époque pour justement montrer à quel point c'est un projet commun, un projet collectif et avec du partage et de la gouvernance très, très collégiale. On n'a pas de président, on a juste un trésorier désigné comme tel pour des raisons administratives avec la banque. Mais sinon, c'est vrai qu'on est, je dirais, vraiment dans une gouvernance très horizontale. Chaque projet, entre guillemets, est pris en charge par des commissions et très rarement par un seul, quasiment jamais par une seule personne.
Ce qui est intéressant dans ce lieu-là, c'est qu'on a chacun nos métiers à côté ou nos anciens métiers parce qu'on a aussi des retraités. Et en fait, ce partage de compétences, il nous permet finalement d'avoir toutes les compétences nécessaires à la gestion d'un lieu comme ça, collectivement, par l'expérience de cette gouvernance, par consentement. Ça permet à chacun, s'il veut s'impliquer, de pouvoir s'impliquer assez facilement, de proposer des idées. Il y a vraiment une appétence de l'association pour ces nouvelles idées. Après, on a des commissions un peu spéciales. Hein. On a celle qui a œuvré pour donc la fête du phare. On a une commission qui est dédiée avec un groupe à chaque fois d'une dizaine, une quinzaine de personnes qui se réunit à partir d'octobre, novembre pour préparer au mieux cette fête du printemps. Et après, voilà, on a aussi des commissions qui vont s'occuper de l'organisation des autres gros événements du café. Donc, on va dire ce qu'on appelle les événements hors les murs. Alex Wynne, qu'on fait pareil depuis 2021. Il y a eu 3 éditions, donc 2021, 2022, 2023. Voilà, je t'annonce qu'en 2025, on repart pour un tour voilà, sur un Alex Wynne qui va on l'espère, va amener autant de personnes, autant d'enthousiasme, autant de diversité de gens qui viennent s'amuser avec nous. Alors Alex Wynne, déjà, c'est un événement qui est 100% gratuit. Et en fait, le principe, c'est d'investir les rues du vieux village pour faire un jeu grandeur nature, un jeu de piste, un jeu avec nos bénévoles, une équipe d'une soixantaine, 80 bénévoles, qui sur la soirée va, on va dire, être déguisé, être grimé pour poursuivre les participants. Donc l'an dernier, enfin il y a 2 ans, on a eu 1200 participants qui sont venus s'amuser dans les rues du village avec une soixantaine de bénévoles qui étaient grimés en animaux mutants qui couraient après les enfants. C'était très très amusant.
Il y a un troisième événement qui est ce qu'on appelle le plein phare, qui est un sorte de petit festival de spectacles vivants. Voilà, donc là c'est pareil, c'est à nouveau une commission d'une dizaine de personnes qui prend en charge le plein phare.
Chaque année, c'est ouvert à d'autres membres. Donc, chaque année, une nouvelle équipe se reconstitue et peut ou pas modifier des choses, proposer des choses différentes ou s'inspirer de, je dirais, la tradition. Mais en tout cas, chaque jeu ou chaque programmation est le fruit d'un travail collectif d'une partie des bénévoles qui se renouvelle chaque année. Et ça, c'est chouette aussi.
Bonjour. En fait, ça s'appelle l'atelier des brailles des outils. Il y a plusieurs techniciens et on répare les objets en fonction du savoir-faire des techniciens.
L'idée, c'est d'avoir des objets du quotidien qui sont abîmés, cassés, défectueux. Et vous pouvez les amener le samedi matin, le dernier samedi du mois, à Alex. Et Greg et ses acolytes savent démonter ces trucs-là, savent les remonter, ont le petit fil qu'il faut, la petite soudure qui permet que l'aspirateur, le grille-pain, la machine à coudre, la machine à Nespresso, n'importe quoi, en général, ils s'en sortent, ils arrivent à la réparer. Moi, je m'occupe de l'accueil, quand je suis là le samedi matin, de l'accueil derrière le bar. Et de l'autre côté du bar, il y a les techniciens Greg, Enzo, Thierry, et puis
Yves.
Et Yves, voilà.
Il y a Sabine, il y a Josie. Donc le café réparation, c'est une chose, mais il y a un message derrière. Très souvent, en effet, on repart avec le grille-pain ou la cafetière qui fonctionne. Mais nous, l'idée, c'est de redonner de la valeur aux objets. Une cafetière, elle est en panne. On se pose la question, pourquoi elle est en panne? Est-ce qu'on peut la réparer? C'est retrouver une logique et redonner de la valeur aux objets. Et voilà, donc ça s'appelle l'atelier des bras et des outils. Donc nous, on répare, mais en fait, c'est pas que nous qui réparons. On répare avec la personne qui amène son objet. On a eu une logique de consommation où un objet, les objets sont tellement peu chers que lorsqu'il est cassé, en fait, on le jette, on en rachète un autre, et puis voilà, ça devient. On se pose pas la question de savoir si c'est réparable. Donc en fait, on a perdu la technique et on a perdu la technique et la valeur d'un objet et même de notre propre savoir-faire et de la propre analyse qu'on peut faire pour réparer un objet. Voilà.
Et l'idée aussi, c'est de proposer un moment d'échange avec les gens, et tout ça en prenant un café, un croissant ou ce que vous voulez, un samedi matin détendu. C'est aussi le samedi matin, on a des gens qui viennent qui ne sont pas des habitués du phare. Des gens qui viennent comme ça parce qu'ils ont un objet en panne, et c'est l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes, de parler avec elles, d'échanger. L'autre fois, on est tombé sur un ancien boulanger qui était boulanger dans les années 40 ou 50 et qui nous a raconté tout un pan de l'histoire d'Alex. C'était vraiment, vraiment chouette de l'avoir avec nous.
Ouais, mais c'est ça, c'est un lieu de partage, même, de rencontre, parce qu'on aborde plein de sujets. Ouais. Et donc, venez au Repair Café, voilà, dernier samedi de chaque mois, de 9h à midi, et voilà, vous rencontrerez des gens sympas autour d'un moment d'échange et où on peut parler bricolage. C'est très convivial, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a même des anciens. L'idée aussi, c'est qu'il y ait une forme de passation, de connaissance, quoi, voilà. En fait, y a plein d'anciens qui s'y connaissent, des retraités. Les gars, ils ont bossé en atelier sur de l'électronique, sur n'importe quoi, en mécanique. Je pense à Yves, c'est un technicien, il a passé sa vie dans un atelier mécanique et il vient ici, mais avec plaisir, il est content de transmettre en fait tout ce qu'il a appris, quoi. Il a rencontré pas mal de gens autour de cet atelier et il transmet toutes ses connaissances aussi, quoi.
Plus riche grâce au Repair Café.
Voilà.
Je crois qu'on avait là une très 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 belle équipe d'invités. Merci beaucoup à toutes.
Bah de rien. J'espère repasser bientôt.
Ouais. Moi je vais en refaire une.
Et je sais pas, on va essayer de faire venir une équipe adulte.
Hein, parce que... Non mais les adultes c'est ennuyeux, c'est mieux les enfants. Hein.
J'avoue, quand même faut leur laisser un petit peu la parole. On est avec Marie et Béatrice qui nous parlent de ce rendez-vous des cinéphiles, un rendez-vous qui se produit tous les combien d'ailleurs, le cinéphare?
C'est une fois par mois, le deuxième jeudi, avec une séance vers 20h, suivie d'un débat.
Le petit groupe qui constitue la commission discute un peu de films et on a fini ces dernières années par se mettre d'accord sur le fait que chacun ou chacune d'entre nous présentait un film. Donc il le présente aussi le jour même. Il dit pourquoi il l'a choisi. Et on accepte tous le pari de le découvrir ensemble.
Suite à ces projections, on s'installe un peu en cercle pour débattre un petit peu de ce film avec des apports techniques, mais aussi où chacun peut exprimer ses ressentis, les émotions qu'ils ont traversées pendant le visionnage.
La volonté, en tout cas, du groupe est plus d'être sur les ressentis que sur la question technique. C'est peu une discussion technique, même s'il y a des vrais cinéastes et ciné-réalisateurs dans l'équipe. Mais cet espace-là, il est vraiment consacré à la question des éprouvés après le film. Qu'est-ce que ça fait vivre à chacune? Enfin voilà, pouvoir en parler...
Alors on a eu la chance lors de certaines projections d'avoir des metteurs en scène.
Olivier, bien sûr, qui est notre réalisateur du phare. Qui a présenté son travail l'année dernière.
Et sa démarche, et voilà, dont on n'a pas forcément conscience en tant que spectateur. Et c'était un vrai plus pour avoir une lecture de l'œuvre beaucoup plus fine et intéressante. Du coup, c'était... En tant que membre de ce petit collectif, je trouve que c'est intéressant aussi de se rendre compte que projeter un film... C'est pas je vais à la médiathèque et puis je récupère un DVD et puis je le projette. C'est prendre contact avec les maisons d'édition. C'est essayer d'obtenir un peu des tarifs qui soient abordables à notre association. Hein. Nous, on essaie de se cantonner à un budget entre 100 et 250 euros la projection. Hein.
Peu, ça, c'est pas, le pas de chose près. Ouais. Voilà. Des fois, on est à zéro, on a de la chance.
On va partir dans nos vertes campagnes. Imaginez-vous, vous êtes au milieu de la montagne et vous êtes une bergère et vous gardez vos moutons, vos brebis et il y en a vraiment un bon paquet. 1, 2, 1, 2, 3, hey, c'est la plus belle des séances, c'est pas la main de la tenante.
Moi, je me souviens aussi d'un débat passionnant, toute une discussion sur ce que c'était que d'être une femme réalisatrice et productrice, puisque nous avons une productrice dans notre équipe. Qui peut aussi qui a pu témoigner, c'était assez touchant, parce que c'est pas souvent qu'on les écoute, de ce qu'elle vit et de ce que c'est dans ce milieu-là. Enfin, on était assez au cœur de problématiques actuelles autour du cinéma. C'était vraiment passionnant. Et on apprend à se connaître pas mal.
Judith et Séverine nous expliquent la ludothèque. Comment ça se passe? C'est un rendez-vous régulier au phare?
Alors oui, c'est une fois par mois, tout le premier samedi du mois. De 10h à midi, on ouvre et donc on joue, on prête des jeux, on sert des cafés. Voilà, c'est on peut venir sans jouer, c'est convivial.
On prête pour 1 euro par jeu. Les gens peuvent repartir avec des nouveaux jeux, les essayer, jouer, les rapporter le mois d'après.
C'est Archijeux qui nous a aidés à monter la ludothèque ici. En fait, ils nous ont un peu lancés pour qu'on puisse après devenir autonome. En fait, c'est eux qui nous ont formés au départ.
Voilà. On a eu 30 ou 40 nouveaux jeux cette année donnés par Archijeux. Donc le fond maintenant est quand même assez important. Voilà. Ça laisse le choix pour tout le monde.
Deux fois par an aussi, on organise des dimanches après-midi jeux.
Plutôt en hiver.
Voilà.
Début de l'hiver, fin de l'hiver. Oui. Avec beaucoup de monde en général, pas mal de succès.
Oui.
Goûter partagé, tout le monde joue sur place cette fois.
Notamment lors des dimanches après-midi, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux jeux aussi. Il y a des familles qui nous ont apporté des nouveaux jeux qui n'étaient pas au phare. Et bon, voilà, c'est un échange en fait. Il y a des gens qui ont des petits-enfants, mais il y a aussi des gens qui ont des ados qui viennent pour emprunter.
Des passionnés de jeux, c'est oui. Ça. À la fois des familles qui prennent pour jouer en famille et des adultes passionnés qui veulent vraiment découvrir des nouveaux jeux. Ça fait des rendez-vous assez familiaux aussi. C'est vrai que c'est comme il y a quand même beaucoup de familles avec des enfants, ça permet d'avoir des temps qui sont propices à ça, à l'échange. C'est très intergénérationnel.
Oui, parfois il y a des personnes qui passent, qui voient que c'est ouvert et qui viennent à des mariages sur Alex et qui rentrent.
C'est vrai que le samedi matin, oui, tout à fait. On a des fois des gens qui ne connaissent pas du tout le phare et c'est une première entrée.
Voilà. Oui.
Attention, l'escargot à paillettes semble faire la sieste, il est en pleine digestion. Alors que l'escargot rose commence à grimper sur l'escargot rouge et vert. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas compris le centre de la course. Voilà, et écartez-vous, que tout le monde voit. Écartez-vous, s'il vous plaît. Alors que le jaune et rouge s'en va. Le jaune et rouge, tout au cœur de derrière. Il avance. Il précipite à l'entraîneur. Et le rose, rayé rose avance. Le rayé rose avance.
Mobilette, sors de la zone bleue.
C'est fantastique.
Sors de la zone bleue, Mobilette. Tu t'es fourvoyé.
Inutile d'essayer de tracter l'escargot.
escargots en tirant la feuille de salade. C'est une méthode qui est formellement interdite par la fédération. Je vous rappelle, elle a été éliminée pendant 3 ans. Plus aucune compétition. Le jaune et rouge est en tête. Il est absolument sur la ligne verte.
Ah, il y a lui aussi là. Il y a
le rose et le rose se déchaîne.
Il arrive bien au champ.
Aïe, 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 c'est pas des choses bizarres que je ne peux commenter.
Voilà. Lui, il a plus les épaules par terre.
Mais il a les appuis avant au sol. Oui. Donc c'est admis. Le jaune se fait coller au train. Il lui fait le coup de la raquette espagnole. Il est en train d'en remonter. Tu dis, on ne l'a pas vu venir. C'est très tendu.
C'est le tien.
Pour encourager vos escargots, n'hésitez pas.
Allez, mobilette.
En plus, les escargots sont sourds. Donc, mais encouragez-les quand même. Ça leur fait plaisir à eux et à leur famille. Le jaune et rouge avance, le jaune et rouge est pas loin de la ligne d'arrivée. Le jaune et rouge est pas loin d'arriver. Le rose a pris la tangente. Alors que certains se sont endormis, on peut dire qu'ils sont endormis. Le jaune et rouge avance.
Le jaune et rouge, il est encore arrivé. Attention. Il y a les cornes. Il a gagné.
Bravo. Alors, et le rose est toujours deuxième, c'est notre côté poulidor de l'escargot.
Au-delà de la mixité sociale, il y a une grande mixité générationnelle, et ça c'est hyper précieux, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est dans du faire ensemble, que ce soit la préparation d'une fête comme celle-ci, que ce soit les commissions, que ce soit les gestions des permanences du café, on est amené du coup à se côtoyer avec des gens de générations très différentes les uns des autres et d'être ensemble. Et c'est très très appréciable, très précieux, parce que c'est pas quelque chose qui est très facile finalement dans nos vies quotidiennes.
Après voilà, nous on a eu récemment beaucoup de discussions avec l'équipe municipale. Hein, l'équipe municipale a quand même reconnu que le phare et André Andras est l'acteur incontournable de la culture à Alex. Là, ils ont une envie de travailler avec nous même à ce niveau-là, parce qu'on est vraiment le moteur culturel du village maintenant. Voilà. On travaille de part et d'autre à faire que les choses se passent bien, et a priori, ça devrait mieux se passer.
On est dans la Vélodrome, donc il y a beaucoup de ce qu'on appellerait les néo-ruraux, et des gens qui sont les Alexois ou les Dromois de plusieurs plus anciens, mais c'est un lieu de rencontre parce que finalement, d'où qu'on vienne, on a tous à cœur de faire vivre ce village, de faire vivre cette commune. On est une commune où il y a peu de commerce, où il y a peu, mis à part les écoles, peu d'endroits où on se rencontre. Et en fait, c'est l'objet de celui-là, du phare, c'est un lieu de rencontre. Pour parler de mon expérience, je suis arrivé en novembre 2021 ici, et l'une des premières choses que j'ai fait en arrivant, c'est de venir au café associatif. Et là, j'ai rencontré les gens qui sont maintenant des amis proches, et qui fait pour rien au monde ce qui traite village aujourd'hui.
Merci Manu et Philippe pour nous avoir invités ici.